Emmanuel a demandé tout à l'heure si on avait bien dormi. Moi, j'ai levé la main comme quoi j'avais mal dormi. Et puis, ce matin, quand j'ai voulu imprimer mon texte, eh bien, il n'y avait plus de tonnerre dans l'imprimante. Et puis, quand j'ai fait mon PowerPoint, eh bien, j'ai tout perdu ce matin. Il a fallu que je recommence tout. Et vous savez quel est le thème que j'avais choisi pour mon... L'impatience. Ça tombait bien. Alors, c'est pas ça, non ?
Ah.
Eh bien, ça continue, vous voyez. C'est pas grave. On laisse tomber le PowerPoint. Alors, donc, le thème choisi, c'était l'impatience. J'attends, tu attends, il attend. Vous savez que, vous ne savez peut-être pas, selon un sondage réalisé par l'Institut OpinionWay pour ING Direct, 82% des Français se disent beaucoup plus impatients aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et pourtant, nous vivons dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite. Et malgré cette accélération constante, nos contemporains sont de plus en plus impatients. Je me souviens, dans les années 50, il y a donc 70 ans, bah oui, quand on prend de l'âge, on peut parler de choses lointaines. Eh bien, communiquer avec nos cousins d'Amérique, c'était 7 jours pour qu'un courrier puisse les rejoindre aux États-Unis, puis 7 jours pour que leur réponse revienne. Donc, si on avait une réponse dans les 15 jours, c'était signe qu'ils avaient répondu tout de suite. Maintenant, nous n'admettons même pas un petit problème de réseau qui nous empêche d'avoir une réponse dans la minute. Et il n'y a pas que la correspondance qui nous rend impatients. Les feux rouges dans la circulation, les queues aux caisses des supermarchés. Qui n'a jamais râlé ou soufflé parce que la file d'attente à la caisse était trop longue? Qui ne s'est jamais retrouvé à hausser le ton un petit peu en face d'un service client un petit peu trop lent et un petit peu déconnecté de l'écoute? Ou qui n'a jamais klaxonné le matin en voiture parce qu'il était en retard et que devant, ça traînait. Ce n'est pas le seul sujet d'impatience pour nos contemporains. En effet, la plupart de nos concitoyens attendent quoi ? Eh bien, attendent des jours meilleurs. Dans cette attente de jours meilleurs, certains aspirent à la dépollution de la Terre, à un comportement plus écologique. Ils appellent l'humanité à faire des efforts. Et même d'ailleurs, beaucoup pensent que c'est déjà trop tard. S'attachent plutôt au prolongement de la vie. Et pourquoi pas à l'immortalité. La médecine, la science progressent. Et là aussi, il y a beaucoup d'impatience. Il y a aussi des personnes, et elles sont nombreuses, qui ont soif de reconnaissance, qui attendent qu'on les considère enfin à leur juste valeur, que ce soit dans leur couple, dans leur famille, dans leur travail. Mais bien sûr, devant tout cela, je pense que les hommes aspirent surtout à la paix, à la justice. Pour certains, la solution est politique. Et ils pensent qu'un homme ou une femme pourrait tout changer s'il était élu. Les promesses des uns et des autres ne manquent pas à ce sujet-là. Il y en a qui comptent sur la science, les découvertes des chercheurs, l'innovation. Pour d'autres encore, ils préfèrent s'appuyer sur leurs propres capacités, leur persévérance, leur savoir-faire, pour quoi qu'il arrive, tirer leur épingle du jeu. Il y a aussi ceux qui comptent sur un héritage ou même un gain utopique à un jeu de hasard pour trouver ces fameux jours meilleurs qu'ils attendent. D'une manière ou d'une autre, on attend tous un petit peu quelque chose de l'avenir. Et forcément, quand il y a attente, il y a impatience. Mais je crois que vous savez, il y a pire que l'attente. Il y a pire que l'impatience. En effet, il y a ceux qui n'attendent plus rien de l'avenir, plus rien de personne. Ceux qui n'ont aucun recours et qui s'enferment dans la dépression, dans le découragement, ou même qui s'anesthésient avec des addictions, dans l'alcool ou dans la drogue. Ne plus rien attendre de la vie, c'est en quelque sorte entrer déjà dans la mort. Dans la Bible, on trouve de nombreux exemples de personnes qui attendaient des choses plus ou moins légitimes, avec des attitudes plus ou moins positives. Par exemple, il y a tous ces malades qui attendaient la guérison, comme ce paralytique au bord de la piscine de Bethesda, dont nous parle l'évangile de Jean au chapitre 5. Il attendait, comme d'ailleurs bien d'autres malades avec lui, que l'eau de la piscine soit agitée pour se jeter dedans et être guéri. Dans le livre des Actes, au chapitre 3, il y a cet infirme qui attendait devant la belle porte du temple. Il espérait quelques pièces d'argent de ceux qui entraient dans le temple. Et c'est ce qu'il aurait voulu recevoir de Pierre et de Jean quand Pierre et Jean sont passés devant lui. Les évangiles nous parlent aussi de ces personnes qui attendaient plus qu'une guérison personnelle, comme le vieux Siméon dans Luc chapitre 2 verset 25, qui espérait voir le Messie, celui qui devait sauver Israël. Et il avait cette garantie de Dieu qu'il allait le voir avant de mourir. Les évangiles nous parlent aussi de Joseph d'Arimathée. Quant à lui, il attendait la venue du royaume de Dieu. C'est ce qui nous est rapporté dans Luc au chapitre 23. Dans tous les cas que je viens de citer, toutes ces personnes ont été satisfaites. Mais elles n'ont pas été satisfaites parce qu'elles ont reçu ce qu'elles attendaient. Non, elles ont été satisfaites parce qu'elles se sont adressées à la bonne personne, à quelqu'un qui connaissait leurs besoins mieux qu'elles-mêmes ne les connaissaient. En effet, le paralytique attendait quelqu'un qui le jette dans la piscine. Jésus ne l'a pas jeté dans la piscine. Jésus lui a donné directement la guérison et l'espérance. De la même manière, l'infirme à la porte du temple demandait l'aumône à Pierre et Jean et s'attendait à recevoir de l'argent. Mais Pierre et Jean lui ont apporté plus que de l'argent. Ils lui ont apporté la guérison au nom de Jésus. Le vieux Siméon espérait voir la venue du Messie avant de mourir. Non seulement il l'a vu, mais poussé par le Saint-Esprit, il est venu dans le temple au moment où les parents de Jésus l'amenaient pour sa circoncision. Et il a pu porter Jésus dans ses bras. Et même, il a prophétisé le salut, non pas d'Israël, celui qu'il attendait, mais le salut de toutes les nations. Et le texte nous dit que les parents de Jésus restaient tout étonnés devant ce qui était annoncé. Nous avons sans doute, nous aussi, des attentes qui nous sont personnelles. Elles sont, suivant le cas, peut-être plus ou moins légitimes. Mais comme je le disais tout à l'heure, le pire, ce serait de ne plus rien espérer, de ne plus rien attendre. La Bible tout entière nous porte vers l'espérance. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. » Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, verset 14, « Mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ta vie. Si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. » Quant à Jérémie, il écrit dans le chapitre 29 et le verset 11 de son livre, ce passage qui est d'ailleurs très souvent cité, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Espérer, c'est vivre. Mais que peut-on espérer légitimement ? Jésus, qui est la vérité, a promis à plusieurs reprises à ses disciples qu'il leur renverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il a même dit « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» C'est dans Luc, au chapitre 11, le verset 13. Cette promesse-là, le prophète Joël l'avait déjà transmise dans Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. Le prophète écrit au nom de Dieu, « Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. » Et même sur les serviteurs et sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. C'est vraiment extrêmement encourageant de voir une même promesse pour les jeunes et les vieux, pour les serviteurs, les servantes, pour les maîtres. Le Saint-Esprit est promis pour tous les âges et pour tous les milieux sociaux. Et pour ceux qui penseraient que cette promesse concernait uniquement l'Église du premier siècle, Pierre, dans Actes chapitre 2, versets 38 et 39, annonce « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Et quand Dieu répand son esprit sur toute chair, il y a un effet extraordinaire. Et aujourd'hui, qui est sur notre calendrier le jour de la Pentecôte, il suffit de lire le livre des Actes au chapitre 2 pour comprendre comment les disciples ont été transformés et comment l'Église est née à Jérusalem avec cette onction du Saint-Esprit. Cette attente du Saint-Esprit était pour les disciples une attente légitime, puisque le Saint-Esprit avait été promis. Mais elle est légitime aussi pour nous, pour tous ceux qui se confient dans la grâce de Dieu, puisque, comme nous l'avons lu dans Actes 2, 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Il y a une autre attente qui est légitime pour ceux qui croient dans les promesses de Dieu. Dieu promet à son peuple d'habiter au milieu de lui, dans un monde de paix et de justice. Les textes qui nous en parlent sont aussi bien dans l'Ancien Testament, comme Ézéchiel 37, chapitre 37, versets 26 à 28, ou dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 21. Cette promesse-là, elle coche toutes les cases des aspirations de l'homme que nous avons mentionnées tout à l'heure. Nous avons parlé de l'écologie, l'homme veut dépolluer la planète. Eh bien, Dieu annonce la disparition de cette terre polluée, remplacée par un nouveau ciel et par une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Une autre aspiration que j'ai mentionnée tout à l'heure, le prolongement de la vie, l'immortalité. Eh bien, Dieu nous promet mais la vie éternelle. Par exemple, dans Jean, chapitre 10, versets 27 à 29. « Mes brebis qui écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » J'ai mentionné aussi la reconnaissance des autres. Dieu nous promet dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Alors, si vous attendez une reconnaissance meilleure que celle-là, expliquez-moi quelle est cette reconnaissance, comment elle peut être plus grande que celle-là. La chose première que les gens citent quand on leur demande ce à quoi ils aspirent pour le monde, c'est la paix. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, au verset 26, le prophète écrit « Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. » Une autre aspiration que j'ai nommée tout à l'heure, la justice. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, versets 7 et 8, Paul écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, le prix de la victoire, c'est une justice éternelle qui est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Nous avons raison d'espérer. Nous avons raison d'attendre. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les choses que nous espérons, ou bien les choses que nous attendons, mais la personne vers qui nous nous tournons, la personne vers qui nous portons cette espérance. Celui de qui nous attendons des bienfaits et la manière dont nous les attendons. Pierre nous donne dans son épître une raison de ne pas nous impatienter. Dans sa deuxième épître, au chapitre 3, versets 9 à 15, Pierre écrit « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un grand fracas. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qu'elle a sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, Dieu nous l'a promis, un nouvel ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Dans ce texte, Pierre nous explique que si les promesses de Dieu nous semblent se faire attendre, c'est parce que Dieu veut agrandir le nombre des sauvés. Et il nous dit même que notre témoignage, notre comportement, peut hâter l'accomplissement de ces promesses. Cette patience de Dieu, elle est pour que le plus grand nombre puisse être sauvé. Mais non seulement pour que le plus grand nombre puisse être sauvé, elle est aussi pour que moi-même, nous tous, nous puissions nous y préparer, nous puissions nous purifier. Et avec l'aide du Saint-Esprit, elle nous permet de faire les œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Je ne sais pas ce qui est important pour vous, mais le texte que nous venons de lire nous dit que nous devons être pur et irréprochable. Et pour moi, devenir pur et irréprochable me donne bien de l'occupation pour meubler tout ce temps, toute cette attente, pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, j'aimerais vous poser cette question pour vous. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez? De qui l'attendez-vous? Et qu'avez-vous reçu? Et si vous avez reçu quelque chose, qu'en faites-vous? Pour terminer, je vous laisse comme d'habitude un verset à méditer. Dans Proverbe 10, verset 28, il est écrit « L'attente du juste débouche sur la joie ». Eh bien, je vous souhaite vraiment la joie du Seigneur dans vos vies. Je vous souhaite non pas de ne plus rien attendre, mais au contraire d'attendre que le Saint-Esprit vous remplisse, d'attendre que les promesses de Dieu pour vous s'accomplissent, d'attendre que chaque jour, ce soit un jour qui vous rapproche plus de la paix et de la justice de Dieu. Je vous demanderai d'incliner vos têtes maintenant. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous sommes souvent dans l'attente de bien des choses. Aide-nous à discerner ce qui est indispensable pour nos vies, de ce qui est utile pour nos vies, de ce qui est bon pour nos vies, et de ce qui nous projette vers l'éternité. Merci Seigneur, parce que si nous nous tournons vers toi, tu vas nous donner au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous attendons, et tu vas nous donner ce que nous n'avions même pas imaginé, comme ce paralytique sur le bord de la piscine, comme cet infirme devant le temple, comme Siméon, comme Joseph d'Arimathée ou comme d'autres. Seigneur notre Dieu, remplis nos vies de ton espérance, de ta grâce et de ta paix. Et j'aimerais vous laisser un court moment de méditation pour que vous fassiez réellement le point pour savoir ce que vous attendez dans vos vies, pour savoir si vos attentes sont légitimes ou si elles sont superflues, et pour vous tourner réellement vers ce qui sera utile non seulement pour cette vie présente, mais pour construire votre avenir et votre espérance dans l'éternité avec Dieu. Seigneur, tu connais ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur, tu connais ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Tu connais mes attentes, tu connais les attentes de mes frères et sœurs. Tu connais mes combats, tu connais les combats de mes frères et sœurs. Seigneur, c'est vers toi que je veux me tourner ce matin pour te dire, oui Seigneur, c'est ce que tu as préparé pour moi qui est le meilleur. Seigneur, aide-moi à aspirer à ton esprit dans ma vie, à ce que ton esprit conduise complètement ma vie, à ce que ton esprit déteigne sur mon entourage, à ce que toutes mes aspirations, Seigneur, soient tournées vers toi. Bénis chacun de mes frères et sœurs ici ce matin, et donne à chacun, Seigneur, de recevoir le meilleur. Non seulement pour ce temps de culte, mais pour la vie tout entière. Amen.